France Inter.
C'est horrible, c'est une exécution. Pour moi, c'est une exécution. Et qu'ils ont raison de crier police assassin. Faut que les policiers, je ne suis pas contre la police parce qu'ils sont là pour nous protéger. Mais il y en a certains qu'il faudrait les réformer. Je sais pas, moi, trouver une solution. C'est à monsieur Darmanin de trouver une solution. C'est pas nous le peuple. C'est lui qui a été élu.
C'est une mort qui a secoué la France entière avant l'été. Celle de Naël, 17 ans, tué à Nanterre par le tir d'un policier pour un refus d'obtempérer. Sur les réseaux sociaux, des images amateurs ont contredit la version initiale de la police et enflammé une partie de la jeunesse. Des émeutes se sont propagées à tout le territoire, avec une violence jamais vue auparavant. Si des pillages ont altéré ce cri de colère, cette révolte contre la police, la gendarmerie, l'État en général, a entraîné le déploiement massif de forces de l'ordre. Près de 45 000 hommes, avec des unités d'élite jamais utilisées pour le maintien de l'ordre. Et cette fois, c'est l'usage d'armes non létales, en particulier le lanceur de balles de défense qui est questionné, un mort à Marseille, et de nombreux blessés, dont certains gravement mutilés.
J'ai reçu le tir de dos, donc j'ai pas pu voir qui m'a tiré dessus, on peut dire. On m'a balayé au sol, qui était au moins 2-3 sur moi en train de me frapper. J'ai subi un trauma crânien gauche, la mâchoire cassée, donc voilà.
L'usage des armes à feu, prévu pour la légitime défense des policiers, a été élargi au refus d'obtempérer en 2017 dans la foulée des attentats terroristes. Sur le terrain, sont-ils suffisamment formés, préparés, encadrés ? L'usage d'armes non létales s'est aussi généralisé. Émeutes, manifestations, gilets jaunes. Y a-t-il un recours disproportionné à ces armes ? Une violence illégitime, exercée par une police chargée de maintenir l'ordre public, mais aussi de protéger les citoyens. Interception est allée à la rencontre de victimes, de policiers, d'avocats, à l'IGPN aussi, la police des polices qui enquête sur ces dérives. À la rencontre également d'un ancien sous-préfet, inquiet d'un basculement.
Donc voilà, c'est la violence qu'on observe dans les manifestations et on n'est plus du tout dans le cadre de la force strictement nécessaire qui est la doctrine d'emploi des forces de l'ordre dans un état de droit.
Du côté de la police, on se défend de tout excès. On souligne la violence qui a gagné la société, la fin du respect de l'autorité, les centaines de blessés dans les rangs des forces de l'ordre, la haine même de certains Français contre l'institution. Direction pour commencer, un stand de tir privé avec des policiers qui prennent sur leur salaire et sur leur congé pour renforcer leur formation. Police, violence légitime ou violence illégitime, c'est un reportage de Sophie Parmentier avec à la prise de son Sandrine Malon.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Alors, intérêt de cet exercice, voir si vous maîtrisez votre arme à n'importe quelle distance. Porteur d'une arme qui est remise par l'État, je dois assumer cette responsabilité, je ne tire que si je suis certain. Si j'ai un doute, je retiens mon doigt. Si j'ai un doute, je tire pas. Ce qu'on va faire, on va avoir chacun sa cible, vous tirez en dégainant. Donc à chaque fois, vous sortez votre arme, vous engagez la cible, vous remettez l'arme à l'étui, et on va reculer. Si vous devez recharger, vous rechargez. Comme dans la voie publique, vous débrouillez. D'accord ? Allez, en ligne. On est prêt ? Top ! Alors, vous allez me le refaire, tous les deux, parce que vous m'avez un peu fait de la merde quand même.
Tout à l'heure, quand j'ai tiré ma première, elle n'est pas partie. Ouais. J'ai repris ma...
J'ai entendu le clic, ouais.
Ouais, ça fait clic. Donc ne tirez que si vous êtes certain.
Les policiers sont en train de charger leurs armes. On est dans un stand de tir en plein air, au pied d'un mur de calcaire entouré de barbelés. Les cibles sont des bustes de papier collés sur des fûts de plastique. Celui qui donne secours, c'est maître Laurent Franck Liénard. Il est l'avocat du policier qui a tiré sur Naël. Maître Liénard défend des policiers et des gendarmes depuis 30 ans. Il est lui-même gendarme réserviste et champion de tir.
C'est beaucoup mieux. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai dû vous le rappeler. En fait, ça doit être maintenant, ça doit être dans votre esprit. Je ne tire que si je suis sûr. Si je suis pas sûr, je ne tire pas. Il faut s'entraîner, conformément au cadre légal, c'est-à-dire qu'il faut avoir le brassard sorti au moment où vous sortez votre arme. Sinon, vous n'êtes pas dans le cadre. On va basculer sur une autre cible. Je suis Maître Guénard, je suis avocat spécialiste de la défense des forces de l'ordre.
Donc là, vous faites une formation un samedi. Pourquoi vous faites ces formations ?
Parce que pour moi, un policier, ça doit absolument respecter le cadre. Pour le respecter, il faut le connaître. Il faut le comprendre, il faut le maîtriser. Le connaître, c'est savoir qu'il existe. Le comprendre, c'est savoir ce qu'il veut dire. Et le maîtriser, c'est être capable, quand on tire, de respecter le cadre. Parce que le souci, c'est qu'il y a une vraie distorsion de la connaissance juridique. On peut connaître parfaitement, en théorie, le cadre juridique et puis faire n'importe quoi sur la voie publique. Moi, je veux qu'ils aient un comportement physique, un comportement technique qui soit compatible avec les exigences de la loi. C'est pas anodin de porter une arme à feu. Le risque est considérable, et donc il faut s'entraîner. Et la honte de ce pays, c'est qu'on n'entraîne pas suffisamment les gens. Les policiers sont toujours un peu désarçonnés par l'événement, parce qu'ils ne s'y attendent pas. L'événement, il est toujours inattendu, donc ça les choque beaucoup. Et puis ensuite, ils sont souvent désarçonnés par les suites. Par exemple, le placement en garde à vue. On leur a jamais dit qu'ils allaient être placés en garde à vue. On leur a jamais expliqué que leur responsabilité pénale pouvait être engagée sur un mot qu'ils auraient prononcé, sur les procès-verbaux qui vont être établis. L'après, ils n'y sont pas préparés, et moi, je les prépare à l'après.
Il ne reste plus beaucoup de mètres. Le chargeur dans l'arme.
Si vous tirez 4 cartouches sur un homme, on vous demandera pourquoi vous avez tiré 4 cartouches. Et vous devrez en justifier. Essayez de tirer peu, essayez de tirer propre, essayez de tirer bien. Moins vous tirez, plus vous êtes efficace, et mieux ce sera. Je vous montre.
Merci.
Voilà. Vous allez passer les uns après les autres sur ce petit exercice. Top.
Vous êtes policier, vous?
Oui, c'est ça. Je suis affecté en brigade anticriminalité de nuit. Donc je travaille exclusivement de nuit et en civil. Donc mon travail est la recherche de la délinquance et le flagrant délit.
Ça fait combien de temps que vous êtes dans la police nationale ?
Et bien cette année, je vais fêter ma 10e année.
Et vous est déjà arrivé de devoir sortir votre arme sur la voie publique ?
Oui, c'est une situation que j'ai déjà eu à rencontrer à plusieurs reprises. Fort heureusement, j'ai pas eu à faire usage de mon arme, donc déclencher de tir. Mais effectivement, sortir mon arme, c'est des choses qui sont de plus en plus récurrentes malheureusement. Parce que notre simple présence ne dissuade plus les délinquants.
Donc vous avez déjà dégainé ?
C'est ça, oui. Alors je dirais pas que je dégaine facilement, parce que je suis pas un cow-boy et je pense qu'aucun de mes collègues ne l'est, si ce n'est qu'on est à même à être confronté à des situations qui sont périlleuses.
À ce moment-là, vous vous posez la question de savoir si vous appuyez sur la gâchette ?
C'est une question qui se pose en un millième de seconde.
Est-ce que c'est des questions qui vous angoissent ? Est-ce que vous avez peur de tuer quelqu'un avec votre arme sur la voie publique ? Comme c'est arrivé récemment, comme ça arrive de plus en plus souvent en cas de refus d'obtempérer par exemple ?
Bah, il est certain qu'ôter la vie à quelqu'un, c'est jamais agréable. Maintenant, c'est lui ou moi, c'est une réalité, c'est une contrainte du métier, mais c'est aussi une responsabilité. Donc c'est pour ça que je fais ce stage.
Et vous faites ce stage parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez bien formé, vous pensez, dans la police nationale ?
Très clairement, la formation est très insuffisante, que ce soit au niveau des moyens qui nous sont alloués. On parle de 90 cartouches par an, ce qui est dérisoire, donc c'est très très peu. Il faut savoir qu'une séance de tir dure à peu près une heure, et à chaque fois 30 cartouches, et ça trois fois par an. Donc c'est très insuffisant, et très très peu.
Vous m'avez dit que ça faisait 10 ans que vous étiez dans la police nationale. En 2017, la loi a évolué, avec la possibilité de tirer en cas de refus d'obtempérer, dans un cadre précis, mais quand même, est-ce que vous avez l'impression que, du coup, les policiers tirent plus facilement, qu'il y a quelque chose de désinhibé, en fait. Est-ce que vous vous dites ça entre collègues ? Est-ce que c'est votre cas à vous ?
Alors là-dessus, personnellement, c'est non, et collectivement, c'est non. C'est pas cette loi qui nous autorise à tirer plus, c'est parce que les atteintes à nos personnes se multiplient. Il suffit de regarder dehors, n'importe quel quidam voit bien que la représentation du policier n'est plus respectée.
Il vous est arrivé aussi d'utiliser les lanceurs de balles de défense, les LBD ?
Oui, c'est une arme pour laquelle je suis habilité et formé, et j'ai déjà eu à en faire usage dans des cadres bien spécifiques.
Et est-ce qu'avec le LBD, vous êtes également assez formé ou pas assez ?
Ah non, très clairement, le manque de formation est global. Pour le lanceur de balles de défense, on a une habilitation où on vient tirer 6 cartouches,
Et cette habilitation est valable 2 ans. Et au bout de 2 ans, on refait un recyclage où on tire 3 cartouches.
Donc c'est rien.
C'est dérisoire. Et c'est surtout que les conditions éventuellement d'usage du LBD sur la voie publique n'ont rien à voir avec le cadre dans lequel on va l'utiliser dans un stand de tir, où c'est complètement aseptisé, où il n'y a pas de nuisance, il n'y a pas de brouhaha général, alors que quand on vient faire usage du LBD, on est généralement dans le cadre des violences urbaines. Et là, je pense que vous l'avez vu sur les images des dernières violences, c'est particulièrement chaotique.
Vous, vous avez utilisé le LBD sur les émeutes de cet été ?
Oui, j'ai eu à faire usage du lanceur de balles de défense.
Après la mort d'un adolescent à Nanterre, abattu à bout portant par un policier, plusieurs grandes villes françaises restent en ébullition. La nuit était marquée par de nouvelles émeutes et des pillages, malgré la mobilisation de 45 000 policiers et gendarmes. Le bilan reste très lourd, il y a eu 79 policiers et gendarmes blessés, 1350 véhicules incendiés et 234 bâtiments incendiés ou dégradés selon le ministère de l'Intérieur.
Là, on est juste devant le 36 quai des Orfèvres, l'ancienne adresse mythique de la police judiciaire parisienne, juste à côté du palais de justice de Paris. Et on arrive chez l'un des avocats les plus célèbres de France, qui s'est spécialisé dans les affaires de victimes qui portent plainte contre la police. Un immeuble de pierre de taille, une plaque dorée, Bouzrou. Avocat à la cour, un interphone.
Yacine Bouzrou, avocat, pénaliste, j'exerce maintenant depuis 15 ans.
Bonjour maître.
Bonjour.
Vous êtes l'avocat dont le nom circule dans les quartiers dès qu'il y a une affaire de violence, dès qu'il y a une victime et la police mise en cause.
Ça arrive, alors c'est une petite partie de mon activité, mais en effet, mon cabinet intervient dans plusieurs dossiers de ce que j'appelle moi des violences policières illégitimes.
Est-ce que vous avez l'impression, maître Bouzrou, que cette affaire Nahel a marqué un tournant ?
Oui, c'est une affaire qui, à mon avis, est importante, marque un petit tournant. Mais il est très rare, en effet, que des policiers soient placés en garde à vue. Voilà, je pense que les médias ont eu un rôle très important, et bien sûr la vidéo. Mais disons qu'il est très rare qu'un policier qui vienne commettre un acte très grave soit placé en garde à vue, soit déféré, présenté à un juge d'instruction, présenté à un juge des libertés en vue d'un placement en détention. Ça, c'est extrêmement rare. Donc oui, il y a peut-être un avant, un après. Si le policier est condamné d'une manière importante, ça sera peut-être un tournant. Mais malheureusement, je demeure sceptique. Et mon expérience m'a appris que quelle que soit la gravité, quelle que soit l'épreuve, nous avons une justice qui est capable soit de ne pas sanctionner, soit de prononcer des sanctions totalement ridicules. Donc l'avenir nous dira si vraiment cette affaire marque un tournant.
Est-ce que dans cette affaire, Nahel, vous pensez que les images que l'on a vues, qui ont circulé très rapidement, cette vidéo qui montre le tir policier, change tout ?
Oui, ça change tout parce que sans la vidéo, il n'y avait pas d'affaire. Il n'y aurait eu aucune poursuite judiciaire et on aurait pris pour argent comptant ce document policier mensonger indiquant que Nahel a percuté un policier. Là, on a l'impression que beaucoup de policiers se lâchent complètement. On a surtout l'impression qu'ils sont couverts par leur hiérarchie et ils se permettent donc ce genre d'acte très violent. C'est tout un problème et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Les violences durant les émeutes, c'est nouveau. En 2005, on a eu des émeutes qui ont ressemblé un petit peu, mais il n'y a pas eu de mort ou de blessés graves. Donc moi, je m'interroge, mais en effet, au regard des dossiers que je traite, j'ai l'impression, peut-être aussi parce que je suis plus sollicité sur des affaires plus graves, mais en tous les cas, moi, j'ai l'impression, à regard de mes dossiers, que les violences illégitimes sont plus importantes.
Peut-être on l'a déjà en photo, t'as juste à te repointer dans la rue prochaine minute. Et je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital.
Hey, ils sont assis sur une femme. Ça, c'est des hommes, ça. Regarde.
C'est l'affaire, mon cœur brune. Je ferme pas. Quand tu fermes pas, tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâche en droite.
Allez-y, madame, faites-le. Vous manquez d'humanité à ce
point-là? Je peux te dire qu'on en a cassé des coups, des gueules et des gueules. Toi, je t'aurais bien pété tes jambes.
Efface ton sourire.
Il n'y a pas aujourd'hui de chiffres officiels suffisamment précis pour affirmer qu'il y a plus de morts lors d'interventions policières liées au refus d'obtempérer. Depuis 2018, l'IGPN, la police des polices, recense le nombre de tués en intervention, mais agrège des situations beaucoup trop variables. Il n'y a pas non plus de chiffres officiels sur les blessés ou les morts liés à l'usage d'armes non létales, comme les lanceurs de balles de défense ou les grenades de désencerclement. En revanche, les plaintes à l'IGPN ont fortement augmenté depuis le mouvement des Gilets jaunes. On retrouve Sophie Parmentier à Marseille, avec deux victimes de violences policières.
France Inter. Interception.
Bonjour. Merci de m'accueillir. Vous êtes encore.
Je vous en prie, c'est normal.
Et vous êtes encore fatigué?
Encore fatigué, ça change pas beaucoup pour l'instant. Ça va mieux, mais en vérité, ça va pas. Donc voilà, on est là.
Là, vous êtes venu vous reposer dans le resto de vos parents, c'est ça?
C'est ça.
Alors, je vous suis, là, on va dans une salle du restaurant.
C'est ça, pour y être assis et à l'aise. Juste ici.
C'est parfait.
Je m'appelle Eji, j'ai 22 ans. J'ai fêté mon anniversaire, cet été à l'hôpital.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, Eji, ce dont vous vous souvenez la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille, quand vous recevez ce tir, de quoi vous vous souvenez?
Mais je me rappelle être tombé. J'ai reçu le tir de dos, donc j'ai pas pu voir qui m'a tiré dessus, on peut dire. Et ensuite, j'ai essayé de me relever. J'ai été attrapé, on m'a tiré, et c'est le moment où j'ai subi des violences. Et après, une fois que c'était fini, j'ai essayé de m'enfuir.
Vous étiez de dos, mais vous avez été visé par un tir qui vous a atteint à la tête, en pleine tempe.
C'est bien ça, ouais, sur la tête du côté gauche.
Vous avez compris, quand vous êtes tombé, que vous étiez blessé, grièvement blessé à la tête?
Non, pas du tout. J'ai senti que j'étais bizarre, je sentais le bourdonnement dans ma tête. Mais avec l'adrénaline, en fait, je sais pas dire qu'on sent pas grand-chose, mais on se sent lourd. On sent qu'il y a un poids. Pour moi, c'était pas... Comment je pourrais dire? La première idée, c'était de partir. Voilà.
De vous enfuir.
C'est ça, ouais.
Et juste après le tir qui vous touche à la tête, vous êtes frappé. De quoi vous vous souvenez?
Mais je me souviens que j'étais attrapé, qu'on m'a balayé au sol, qu'ils étaient au moins 2-3 sur moi en train de me frapper. Il y avait des coups de pied, il y avait des coups justement avec les gants coquets, qu'on essayait de se mettre en boule. Et qu'on attendait que ça passe.
Là, vous êtes encore dans le contre-coup, 3 mois après?
Non, honnêtement, oui. Parce que je peux pas trop marcher, je suis vite fatigué. Quand je me mets debout, j'ai des vertiges. Avant, j'étais une pile, hein, maintenant, je suis là, je suis quand même petit père, on va dire ça. Je marche doucement, je m'exprime doucement. Je dois me balader avec le casque de neurochirurgie. C'est qu'il n'y a rien qui protège mon cerveau. C'est à même la peau, si je peux dire ça, le cuir chevelu. J'ai subi un trauma crânien gauche, la mâchoire cassée. Et là, aujourd'hui, j'ai l'œil, malheureusement, l'œil gauche que je ne vois plus.
Et les chirurgiens ont dû vous enlever une partie de la boîte crânienne à cause du traumatisme que vous avez subi?
Oui, c'est bien ça. En vue de faire respirer mon cerveau parce qu'il était compressé. Et de l'hémorragie qui était en train de se passer.
Donc là, vous n'avez pas votre visage habituel?
Voilà, ça fait un peu spécial. Au début, c'est difficile. Ça fait pas plaisir, mais on avance.
Les chirurgiens doivent vous réopérer et du coup remettre une partie du crâne qu'ils vous avaient enlevé, c'est ça?
C'est ça, ils doivent me réopérer en espérant que ça se passe bien et retrouver un semblable de tête entière. Voilà, je me languis, j'ai peur, mais je me languis.
Pourquoi vous vous languissez?
Ben, pour me retrouver avec moi-même, pour me regarder dans la glace et de me dire c'est moi. Ça sera pas comme en 40, parce qu'il y aura toujours cette grosse cicatrice de 60 points en plein milieu, mais déjà, trouver une forme un peu près unie, ça va faire plaisir, ça va faire chaud au cœur. Voilà.
Alors que s'est-il passé début juillet à Marseille entre le 1er et le 2 juillet? Ce soir, notre pays vit une nouvelle nuit d'émeute à la mort de Nahel et plusieurs policiers auraient dérapé dans la cité phocéenne.
Oui, quatre agents de la BAC sont soupçonnés d'avoir passé à tabac Eddy, un jeune homme de 22 ans qui sortait.
Qu'est-ce que vous ressentez à l'égard du policier qui a tiré sur vous et des policiers qui vous ont frappé? Est-ce que vous éprouvez de la colère?
Non, je n'éprouve pas de colère. Un manque de compréhension, ça c'est sûr. Peut-être ils vont être tous reconnus coupables. Et bien peut-être qu'ils changeront d'idéo. Et que c'est là que ça va le faire. Et à ce moment-là, je leur en veux pas. Après, c'est sûr qu'il y a un goût amer.
Le policier qui vous a visé avec son flashball a reconnu le tir. Il a mis du temps. Mais au bout d'un certain nombre de semaines, il a reconnu ce tir en disant qu'il était justifié. Vous comprenez qu'il ait dit ça?
Non. Forcément qu'il essaye de sûrement se défendre. Mais une tir justifiée, non, je ne suis pas d'accord.
Ce policier dit que vous avez eu à son égard un geste menaçant.
Non, jamais. Mais après, voilà, ce sera à la justice d'estimer ce qui est juste ou quoi.
Ce policier qui vous a visé et qui a reconnu le tir... est sorti de détention désormais à la fin de l'été. Il a été placé en liberté sous contrôle judiciaire. C'est une décision qui vous a choqué?
Une décision qui m'a choqué, non. Qui m'a fait plaisir non plus. Mais je me mets à la place de ce petit, de son fils, qui a pu faire la rentrée justement avec son père. Je me dis aussi que c'est un homme qui manque à sa femme, tu vois, c'est un mari qui manque à la maison. Du point de vue de sa famille, je suis content pour eux.
Vous avez des paroles très sages.
Je sais pas, pour moi c'est pas logique, mais après une épreuve dure, on va dire comme celle-là, on voit plus les choses pareilles. Franchement, le plus important pour moi c'est d'être là aujourd'hui. Le matin, de pouvoir se réveiller, de pouvoir se mettre debout, tu refais tes priorités. C'est pas évident à dire, mais pour rien n'est pareil.
La situation est toujours compliquée à Marseille.
Voilà.
C'est consécutif à l'affaire Eddy, jeune homme âgé de 21 ans.
On est dans les rues de Marseille. On a rendez-vous avec une jeune femme qui, elle aussi, a été victime d'un tir de flashball et d'un déferlement de violence. Elle a été blessée en 2018 en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Elle se prénomme Angelina. Pendant longtemps, elle a choisi de se faire appeler Maria.
Vous voulez qu'on aille au parc du Corbusier?
C'est un petit endroit que vous aimez bien.
Ouais, j'aime bien parce qu'il y a des arbres. J'aime bien parce qu'il y a de la nature. Et j'aime bien parce qu'il n'y a personne surtout en fait. Et moi, les gens... Ils m'oppressent, les voitures m'oppressent, les gens m'oppressent, donc ici ça va. Il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. J'aime bien. C'est mieux qu'enfermée dans la maison où j'ai vécu ma convalescence. Je préfère être dehors.
Pendant longtemps, vous aviez choisi un pseudonyme. Comment vous voulez qu'on vous présente à la radio? Comment on vous appelle?
Moi, je pense qu'il faut m'appeler Angelina maintenant parce que c'est mon prénom et c'est mon identité.
Vous avez quel âge?
J'ai 23 ans. Et lors de l'agression... Je venais d'avoir 19 ans. Je venais d'avoir 19 ans, c'était en 2018.
Vous pouvez nous raconter?
Je sortais du travail, je travaillais dans la lingerie féminine. J'avais fait mon apprentissage là-bas et tout, du coup j'étais très bas. Et le jour de mon agression, en fait, c'était les premières manifestations des Gilets jaunes. Et en fait, c'était terminé, je crois, vers 14-15 heures. Quand il y a des manifs, tout le monde rentre chez eux, quoi. Donc du coup, c'était vide. Et mon patron, vers 17 heures, il m'a dit « Bon, vas-y, ça sert à rien qu'on reste ouvert pour rien jusqu'à 19 heures. Viens, on ferme, rentre à la maison et demain, on forme. » Et du coup, je suis partie. Je suis allée chercher mon copain. Et je sais pas, quand on s'est retourné du Carrefour City, la police, je sais pas s'ils sont sortis de la préfecture ou quoi, mais en tout cas, ils étaient bien là en groupe, comme d'habitude, ils font des genres de périmètres sécurité, ou je sais pas. On a demandé si on pouvait faire demi-tour, et en fait, ils se sont mis en ligne derrière nous, ils ont dit non, c'est bon, là, on a sécurisé ce périmètre, restez à l'angle de la rue de la Glace, et quand vous pouvez passer en arrière, on vous le dira. Ok, donc on attend, je crois, 10 ou 15 minutes. Et en fait, je me suis retournée, j'ai pris la cigarette à mon copain et je me suis fait tirer dessus. C'est tout. Je me suis sentie vraiment propulsée à une très forte vitesse et je croyais que j'avais plus ma jambe, en fait, tellement que c'était un gros impact. Et là, je me suis pris un coup de pied dans la tête et j'ai tapé le derrière de la tête contre le sol. Et puis, suite à ça, il m'a mis un coup de pied dans la tête et il m'a fait un œdème sur le cerveau. Son rendure, ça a touché mon cerveau. J'ai perdu la moitié de mon liquide céphalo-rachidien. J'avais des lésions sur tout le corps entier parce que j'ai été frappée à coups de matraque, à coups de pied, à coups de matraque. Et donc j'avais des boules, des kystes de partout sur le corps. J'avais un hématome énorme sur le ventre. Mais heureusement que j'ai cette personne qui a filmé d'en haut. D'ailleurs, je la remercie. Je ne sais pas c'est qui, mais merci.
Parce qu'il y a un témoin qui a filmé le moment où vous êtes touché par le lanceur de balles de défense, où vous chutez et ensuite les policiers sont autour de vous.
Quand j'ai vu la fin de la vidéo, le mec, il leur disait « Mais vous êtes sérieux? Vous avez fait ça une cheat et tout ?» Il les regardait comme si « De quoi tu te mêles, en fait ? Genre, ça te regarde ? Ça va, on n'a rien fait. » Ils sont partis comme s'ils m'avaient écrasé. J'étais un caillou au bord de la route, ils l'ont poussé, voilà. Franchement, c'est ignoble. Je ne sais même pas comment ils font pour dormir.
Est-ce que vous avez une explication ? Est-ce que vous aviez échangé des paroles avec les policiers juste avant ? Est-ce que vous aviez eu un geste à leur égard ou rien ?
Non, à Marseille, il n'en faut pas beaucoup pour que la police te saute dessus. Il suffit de les regarder, ça les gonfle et ils te frappent. Non, j'ai rien fait. Je leur ai demandé deux fois si je pouvais rentrer chez moi, gentiment. Je ne pense pas les avoir vexés. J'ai rien dit de déplacé. J'ai sorti une cigarette, alors s'ils ont cru que j'avais sorti une arme, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que c'est ma tête. Je peux mettre ça sur le coup de tout. Je peux mettre ça sur le coup du racisme. Je peux mettre ça sur le coup de la jeunesse. Je peux mettre ça sur le coup que moi et mon copain, on était habillés foncés. Du coup, ils ont peut-être cru qu'on était des émeutiers. Je ne sais pas, en fait. Je sais pas. Pour moi, il y a zéro raison parce qu'on n'a rien fait et surtout qu'ils m'ont vu, je leur ai parlé, donc ils savaient qui j'étais. Et donc ils savaient qu'ils frappaient, ils savaient déjà qu'ils frappaient une femme, et ils savaient que je les avais écoutés dès le début pour leur périmètre de sécurité, donc non, il n'y a aucune raison valable à ce qu'ils ont fait. Aïe.
Mais non, la petite, elle a tourné, elle est tombée, ils sont arrivés, ils l'ont fracassée.
J'ai un gros stress post-traumatique depuis l'agression. J'ai pas pu sortir pendant 2 ans de chez moi à cause de crises d'angoisse. Aujourd'hui, ces crises d'angoisse se calment parce que j'arrive à les gérer, mais elles sont toujours là. Honnêtement, le plus dur du truc, c'est pas le jour même de mon agression. C'est les 5 ans d'après, en fait. C'est aujourd'hui, c'est tous les jours. C'est le combat de tous les jours que je mène qui est dur. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'aigri, j'ai pas envie de devenir cette personne-là. Par contre, je suis en colère contre le système, je suis en colère contre l'État et je suis très 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 en colère contre tous les gens qui croient encore qu'on peut faire confiance à la police. Mais en même temps, je fais pas d'un cas une généralité, je les déteste pas tous. Je suis surtout triste, en fait. Je suis en dépression aiguë depuis très longtemps, j'en suis consciente, je l'assume. Je pleure toute la nuit, donc c'est qu'il y a un problème. Et je souffre énormément, je sais même pas, il n'y a pas de mots à mettre dessus, en fait. Moi, je veux juste que la justice soit faite, mais ce que je veux n'est pas ce qui va arriver. Donc, on s'en fout de ce que je veux, finalement, vu que ça va pas arriver. Donc, voilà, c'est tout.
Ben ouais, elle est tombée quand vous êtes arrivé. Vous l'avez fracassée.
Dans l'affaire d'Angelina, les policiers marseillais suspectés n'ont toujours pas été identifiés au bout de 5 ans. L'enquête se poursuit comme pour Eddy. Nous partons maintenant à la rencontre d'un policier parisien dont la vie a aussi basculé en quelques secondes. Dans un cortège, ce policier a lancé une grenade à main de désencerclement qui a éborgné un manifestant. Il a été jugé aux assises et acquitté.
Alors, je me prénomme Alexandre. J'ai 55 ans. Je suis policier national depuis 28 ans. Pendant 10 ans, donc, j'ai été chef d'une brigade de nuit en sécurité publique. Et à l'issue de ces 10 années comme gradé, j'ai fait le choix de rejoindre une compagnie républicaine de sécurité. Je suis arrivé donc le 1er septembre 2016 lors de mon affectation dans une compagnie républicaine de sécurité du nord de Paris. 15 jours après, alors même que je n'avais pas été formé, nous avons été appelés en renfort. Alors j'ai suivi le mouvement, j'étais observateur de ce qui se passait. Nous avons tout de suite arrivé sur le cortège, constaté que des groupes de 50 à 100 personnes vêtues de noir se servaient de tout objet pour nous agresser. Alors des objets, ils ne se contentaient pas de cailloux, ils ne se contentaient pas de petits projectiles, mais prenaient des pavés, des planches cloutées, des récipients en verre remplis d'excréments, de peinture, des boules de pétanque. Voilà avec ce quoi ils nous visaient, mais ça ne s'arrête pas là. Ils nous visaient également avec des engins incendiaires, donc des armes de guerre, des cocktails Molotov. Comme vous pouvez le voir sur cette photo que j'ai présentée devant la cour d'assises lorsque j'ai été jugé, cette photo, c'est un des collègues de ma compagnie qui vient d'être impacté par un cocktail Molotov et qui prend feu au niveau de la cuisse. Il est d'ailleurs blessé gravement, puisqu'il y a des brûlures au troisième degré.
Hein. C'était en 2016. Hein.
C'était en 2016, effectivement. Il manifestait contre la loi El Khomri à Paris.
Donc là, il y a plusieurs cocktails Molotov qui vise votre compagnie, et c'est le moment où vous décidez de lancer une grenade.
En fait, je lance cette grenade. Immédiatement derrière, on fait un bond offensif, puisque cette grenade avait pour but de disperser un groupe que j'avais jugé comme étant dangereux et qu'il était véritablement. La victime se trouve à 6 mètres environ du lieu de l'explosion de la grenade et aurait pris dans son œil un plot de cette grenade. Ou le
Donc un plot de caoutchouc, c'est ça ?
Un plot en caoutchouc, absolument. Ou le bouchon allumeur. La victime qui a été malheureusement blessée, était sur la gauche alors que les Black Blocs arrivaient, eux, de la droite. Et c'est ce qui a provoqué un véritable sentiment de culpabilité chez moi lorsque j'ai été incriminé. L'idée d'avoir blessé quelqu'un accidentellement, soit, mais d'avoir blessé quelqu'un gravement quand même, c'est difficile à vivre. C'est grave, ce monsieur a perdu son œil, et donc j'ai reçu une convocation de l'inspection générale de la police nationale. La qualification pénale qui est retenue, hein, c'est violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique avec arme ayant entraîné une mutilation. Je suis convoqué dans le bureau du juge d'instruction, ma vie bascule, et là j'apprends que je suis mis en examen. Cette situation est schizophrénique. D'un côté, je suis policier, un policier républicain qui respecte les valeurs. Et je me retrouve policier mis en examen, ce qui est paradoxal. Je vais être traduit devant la cour d'assises comme tous les criminels de droit commun qui ont commis des atrocités. C'est inacceptable. En tout cas, moralement, pour moi, c'est inacceptable. Mais je m'y plie.
Au procès, vous avez vu la victime. Qu'est-ce que vous lui avez dit ?
Alors, j'étais à 2 mètres de la victime. Donc je l'ai regardé et je lui demandais pardon. J'ai voulu lui montrer toute la dimension humaine, toute l'empathie, toute la compassion que j'avais pour ses souffrances, parce que je me suis mis à sa place bien des fois, ma compagne pourrait le dire. J'en parlais souvent, je me mettais à sa place. J'essayais de voir ce que ça faisait de vivre avec un seul œil. Et donc je me suis mis à sa place, et effectivement cette colère, elle est tout à fait légitime. Il a perdu un œil, j'ai pas du tout souhaité qu'il le perde, mais c'est un fait, il l'a perdu. Évidemment, après une épreuve pareille, non seulement je ne suis plus le même policier, mais je ne suis plus le même homme. Je ne suis pas sorti indemne de cette affaire. Il m'a fallu des jours pour comprendre, pour réaliser que j'étais enfin acquitté, enfin réhabilité. Je redevenais un homme normal, mais un homme qui avait été heurté et meurtri, et qui le restera jusqu'à la fin de sa vie.
Armes à feu, LBD, grenades de désencerclement, que les armes soient létales ou non létales, dans un état de droit, l'usage de la force par la police doit être légitime et proportionné. C'est la question centrale que se pose l'IGPN, la police des polices, quand elle enquête sur des violences policières. 1 millier de dossiers ouverts l'année dernière, 36 pour les dernières émeutes. Sophie Parmentier nous emmène dans cette institution qui ouvre rarement ses portes et qui est souvent considérée comme pas assez indépendante pour contrôler efficacement la police.
Interception sur France Inter.
Voilà, on entre à l'IGPN. C'est un immense bâtiment moderne de couleur rouge. Il y a carrément un escalator. On va le prendre. On a rendez-vous avec la patronne de la police des polices, Agnès Thibault-Lecuivre, première magistrate à la tête de cette institution.
Bonjour, bienvenue à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale.
Vous nous faites visiter ?
Allons-y. Voilà, vous avez ici Patrice Brisé, commissaire divisionnaire, qui a la tâche particulièrement lourde de coordonner le travail de l'ensemble des enquêteurs de l'inspection générale de la police nationale.
Les enquêteurs de l'IGPN, c'est à peu près une centaine de personnes, un peu plus de 100 personnes réparties sur le territoire national. Tous ces enquêteurs donc, font des enquêtes judiciaires et administratives avec deux objectifs différents. L'enquête judiciaire qui a pour objectif d'aller matérialiser, constater, qualifier juridiquement des faits en termes d'infraction pénale, ou les enquêtes administratives prédisciplinaires qui ont pour objet de voir si les comportements reprochés ou allégués aux policiers peuvent être qualifiés en termes de manquements professionnels.
Vous trouvez que c'est difficile, quand on est policier, d'enquêter sur ses collègues ?
Alors forcément, c'est un type d'enquête un peu particulier, parce que le public auquel on a affaire sont par principe des collègues dont on peut comprendre en tout cas parfois les difficultés, les contraintes, les préoccupations, dans des situations où ils peuvent être exposés à l'altérité, aux injures, à la violence. Bon, une fois ce postulat posé, nous sommes des enquêteurs. Donc le travail d'enquête se déroule en impartialité et avec objectivité. On n'a qu'une seule règle, hein, c'est le droit, rien que le droit.
Le travail d'un policier en charge des enquêtes à l'inspection générale de la police nationale n'est pas différent du travail d'un policier au sein d'un service de police judiciaire. Il a un objectif, c'est de recueillir des éléments de preuve.
Vous parlez des preuves qu'il vous faut trouver. Parfois, c'est toute la difficulté. Il n'y a justement pas de vidéo ou les policiers qui sont impliqués dans des enquêtes n'ont pas le fameux RIO qui permet de les identifier.
Le RIO, qui est le numéro d'identification, on en parle beaucoup. C'est d'ailleurs une obligation dans le code de déontologie. Donc, il est rappelé de manière constante que le policier doit porter son RIO, de même qu'il est rappelé de manière permanente que le policier doit porter sa caméra piéton, voire l'activer quand une situation le justifie au regard des prescriptions légales.
Ce que les policiers ne font pas très souvent.
Sur la caméra piéton, nous sommes le témoin d'une amélioration constante de l'activation par les policiers de leur caméra piéton. Donc ce travail d'identification, je serai totalement ferme là-dessus. Jamais, nous ne lâchons sur ce travail d'identification. Il est parfois long, mais les enquêteurs ont un objectif, c'est d'identifier si un policier a commis un manquement, une faute, une infraction. Pour poursuivre sur la problématique des vidéos, il peut y avoir des images, des vidéos qui deviennent virales et qui choquent n'importe quel citoyen. Et nous nous devons d'expliquer que la violence, qui est en soi choquante, l'usage de la force est en soi choquant. Un policier qui sort sa matraque et qui tape quelqu'un, ça peut choquer. Mais que pour autant, il faut dépasser ce choc émotionnel, ce ressenti, et expliquer si l'usage de la force est ou non conforme aux prescriptions légales, c'est-à-dire est-ce que c'est strictement proportionné et est-ce que c'est tout à fait nécessaire. Et parfois, on démontre que oui, ça l'est.
Quand vous, enquêteur IGPN, vous entendez l'opinion publique qui dit que vous protégez vos pairs malgré tout dans les enquêtes ?
Alors on a l'opinion publique qui, pour certains, pas tous, hein, peuvent dire qu'on protège nos pairs. On a nos propres pairs qui ne trouvent pas vraiment qu'on les protège et qui, lorsqu'ils sont convoqués à l'IGPN, n'arrivent pas dans des dispositions psychologiques les plus satisfaisantes ou confortables. Je pense que la vérité, elle est un peu au milieu. On fait notre travail, on ne protège personne, on enquête à charge et à décharge avec un seul objectif, c'est manifester la vérité.
On ressort de l'IGPN, on va filer à un dernier rendez-vous avec Laurent Bigot. Dans sa vie d'avant, il a été sous-préfet, puis il est devenu gilet jaune et il s'est mis à filmer des violences policières illégitimes.
C'est une manifestation à Paris. Et c'est une charge des compagnies d'intervention sur le cortège. Et je suis la charge. Et vous voyez, il y a des gens au sol. En fait, les manifestants n'arrivent plus à reculer. Des manifestants qui ne peuvent pas reculer, qui sont bloqués. Et c'est moi qui crie en leur demandant d'arrêter.
On arrive chez Laurent Bigot.
On peut s'avancer dans le salon, si vous voulez bien.
On vous suit.
Vous pouvez vous asseoir là.
Il s'installe devant l'ordinateur, peut-être ?
Oui.
On va regarder ensemble les images que vous filmez.
Oui, une des nombreuses vidéos que nous filmons, ma fille et moi, manifestation, mais ça c'était moi qui filmais.
Alors on lance un premier film.
Là on est place de la Bastille, c'est une charge de police, de gendarmes mobiles qui frappe un homme au sol. Là c'est, il se déchaîne dessus aussi, il est tombé sur la charge, il le noie de coups de matraque, et il ne l'interpelle même pas, hein. C'est-à-dire qu'ensuite ils s'arrêtent et ils vont reculer. Ils se sont juste défoulés, ils ont chargé, le manifestant est tombé au sol, il a pris une dizaine de coups de matraque, et puis les gendarmes mobiles s'en vont, et puis le manifestant se relève avec probablement des hématomes, et puis quand on le frappe au sol, ben, toutes les parties du corps sont touchées, donc le visage peut être touché, les parties génitales. Je rappelle qu'un photographe a perdu un testicule sur un coup de matraque au sol, au début de la mobilisation contre la réforme des retraites. Donc voilà, c'est la violence qu'on observe dans les manifestations et on n'est plus du tout dans le cadre de la force strictement nécessaire qui est la doctrine d'emploi des forces de l'ordre dans un état de droit. Il n'y a pas une manifestation où il n'y a pas eu des débordements de cette nature-là, des charges incompréhensibles, un niveau de violence des forces de l'ordre qui ne sont plus là pour maintenir l'ordre mais pour faire mal, pour décourager les gens de revenir en manifestation. En fait, ça, c'est pas du maintien de l'ordre, c'est de la répression, très clairement. On ressent de la colère, bien évidemment. Et puis désormais, moi, les images, j'ai beaucoup de mal à les regarder. C'est vraiment pénible.
Ça vous fait quoi ?
Ouais, ça me donne envie de pleurer, tout simplement. Je m'habitue plus à cette violence-là. Je pense que j'en ai trop vu, beaucoup trop vu. Moi, j'étais dans le corps préfectoral et j'y travaillais avec les policiers et les gendarmes. Et en plus, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Je suis très admiratif de ce qu'ils font parce que c'est un métier extrêmement difficile. Vous voyez la noirceur de l'être humain toute la journée. C'est ça votre job. Avec un métier où il y a peu de reconnaissance, il faut le reconnaître. Et donc, non, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Et puis, pendant 10 ans, moi, je suis retourné dans la diplomatie. Et puis après, je me suis mis à mon compte. Et pendant 10 ans, j'avais plus de contact ni avec les policiers et les gendarmes. Et j'ai repris contact avec eux en manifestation. Mais moi, en tant que manifestant et eux, en tant que faisant le maintien de l'ordre. Et là, j'ai découvert deux choses. D'abord, j'ai découvert que la doctrine du maintien de l'ordre avait complètement changé. Moi, quand j'étais sous-préfet, on m'avait expliqué, et surtout les vieux policiers, les vieux gendarmes m'avaient dit désescalade systématique, pas de contact, jamais de nasse. Et je me retrouve en manifestation, dans des manifestations où c'est jamais la désescalade, c'est la stratégie de la terreur. Les nasses systématiques sur les manifestations. Donc le contact systématique, c'est quoi ? C'est des coups de matraque, c'est des tirs de LBD pratiquement à bout portant. J'en ai filmé un notamment en 2020 à Paris. Il est même à bout touchant, parce que le canon est presque sur la personne qui va recevoir l'impact. Donc c'est ça, c'est le choc de voir que la doctrine a changé et de voir la violence du maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment plus dans du maintien de l'ordre. On a des policiers surtout, moins les gendarmes, mais surtout les policiers, qui se déchaînent sur les manifestants. C'est plus du tout la force strictement nécessaire. On n'est plus du tout là dans un exercice, parce que c'est un art, le maintien de l'ordre. Tous ceux qui le pratiquent vous diront, c'est tellement difficile. Et c'est vrai que c'est une discipline très difficile. Mais normalement, c'est contenir, canaliser et disperser. Mais là, c'est vraiment faire mal, très clairement. Ce qui m'a aussi beaucoup choqué, et c'est pour ça que je dis qu'on est sorti dans l'état de droit, c'est qu'on a d'abord des forces de l'ordre qui viennent châtier les manifestants, mais c'est le rôle dans un état de droit de la justice de punir, pas les forces de l'ordre.
Vous ne reconnaissez pas la police que vous avez connue quand vous étiez sous-préfet ?
Je ne reconnais surtout pas la doctrine du maintien de l'ordre. Et je pense que les politiques ont une lourde responsabilité dans le vocabulaire qu'ils emploient. Un vocabulaire guerrier, militaire. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que la police est malade, elle souffre de beaucoup de maux, elle souffre d'individus qui n'ont pas leur place dans la police, et elle souffre d'un emploi politique. Moi, je le dis très clairement, je dis, il y a dans ces comportements de policiers, il y a des policiers qui doivent quitter l'institution, qui n'ont rien à faire dans l'institution, hein, qui ont un appétit pour la violence, et c'est pas le profil qu'on recherche. Il y en a d'autres qui se comportent violemment parce qu'ils ont peur. Il y en a d'autres qui se comportent violemment parce qu'ils sont tellement mal formés qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc il y a plein de choses à régler dans l'institution police. Et moi, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais si on ne s'y attelle pas maintenant, quand je vois les dérives qui ne cessent d'augmenter... Alors, avant, c'était en banlieue. Et c'est vrai que tout le monde fermait les yeux, moi le premier. Mais cette dérive-là, si personne ne dit stop, si personne ne dit « Mais est-ce que c'est digne d'un état de droit ? Est-ce que c'est digne de la France de gérer la colère ?» légitime des citoyens ainsi, ben si personne ne dit stop, je ne sais pas jusqu'où on ira. Et je pense que les bons flics, c'est pas péjoratif de dire flics, hein, ils s'appellent flics entre eux, je pense que les bons flics ne méritent pas cette mauvaise police. Et je pense que les Français ne méritent pas cette mauvaise police.
Police, violence légitime ou violence illégitime. Un reportage de Sophie Parmentier, prise de son Sandrine Malon, Martin Troidec et Stéphane Beaufis. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Amandine Grevose. Cette émission est disponible dès maintenant à la réécoute sur franceinter.fr.